Si vous écoutez ce podcast, c'est parce que vous êtes passionné par le vin, par ceux qui le font et ceux qui le partagent. Un peu comme Ideal Wine finalement. Ideal Wine, notre PME française est devenue le site de référence des amateurs pour l'achat, la revente et la cotation de grands vins. Et nous en sommes très fiers. Car notre équipe de passionnés s'attache depuis 2000 à rendre accessible aux amateurs ce que le vignoble offre de meilleur. Deux types de ventes sont proposés sur notre site. Les enchères en ligne, pour lesquelles nous sommes aujourd'hui le premier acteur mondial, et une offre e-caviste qui s'appuie sur un réseau de 900 domaines partenaires, également animé par des rachats de caves particulières expertisées. Ideal Wine est le seul site capable d'aligner côte à côte de vieux flacons et les tout derniers millésimes d'un même domaine. Ideal Wine, c'est une équipe engagée pour vous guider et vous accompagner dans la constitution d'une cave qui vous ressemble. Au service du vin, de ceux qui le créent et de ceux qui le partagent depuis 2000.
Ça fait partie des grands moments parce qu'ils ont des grandes cultures, ils ont œuvré pour la viticulture française et puis voilà, ça m'a beaucoup plu.
Le vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Et c'est parce que nous l'aimons plus que tout que nous voulons mieux comprendre ce qui fait un bon vin. Cépage, climat et terroir y participent, mais avant tout, il y a la patte des vigneronnes et des vignerons. Je suis Romain.
Je suis Florian.
Je suis Antoine.
Nous sommes trois copains et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse.
Attention, vous êtes sur le point de rencontrer un personnage attachant et un sacré vigneron. Sur les bons conseils d'Isabelle Pangot, vigneronne au domaine de l'affût que vous pouvez retrouver dans notre 11e épisode, nous avons eu le plaisir d'interroger Marius Tabordet. À la tête d'un domaine familial sur la commune de Verdigny, c'est un fin connaisseur des appellations Pouilly-Fumé et Sancerre. Alors qu'il se destinait à une autre activité, Marius clame aujourd'hui haut et fort son amour pour le métier de vigneron. Régalez-vous.
Bonjour Marius Tabordet.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous accueillir chez toi. On est ici dans le village de Verdigny. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît?
Oui, avec plaisir. Donc Marius Tabordet, du domaine Tabordet à Verdigny. J'ai repris le domaine en 2012 exactement. Et donc je suis associé avec mon père et mon cousin.
Donc c'est un domaine familial?
Exactement.
Qui a déjà une histoire assez riche?
Qui a une histoire riche, on est la troisième génération. Donc c'est mon grand-père qui a commencé, mon père et mon oncle qui ont fait évoluer le domaine, et maintenant c'est moi et mon cousin.
Dans quel sens ils l'ont fait évoluer? Tu peux nous faire un petit historique, s'il te plaît, expliquer ce qui s'est passé?
Donc mon grand-père, nous on est originaire de Mentouratel, on était paysans, éleveurs, et céréaliers aussi, et donc... L'après-guerre, il est descendu sur Verdigny parce qu'il a eu une opportunité de trouver des vignes, d'avoir des vignes. Et donc, ça a commencé à ce moment-là. Et mon père et mon oncle ont fait évoluer le domaine, surtout sur la partie de Pouilly-Fumé. Voilà.
Ouais. Alors, tu as effectivement le domaine qui est à la fois une petite partie sur Sancerre et une grosse partie sur Pouilly-Fumé.
Exactement.
Donc, tu as quand même une bonne vision des deux appellations qui sont un peu les fers de lance des vins du Centre-Loire. Oui. Et je voudrais qu'on parle un petit peu de ça, des différences de terroir, des spécificités. Mais on va en parler après. Comment est-ce que le domaine a évolué? Qui a fait les premières mises en bouteille? Et comment est-ce que vous êtes arrivé aujourd'hui à faire essentiellement du vin?
Mon grand-père a commencé tout doucement à faire quelques bouteilles, voilà, dans les années 70-80. Et après, c'est mon père et mon oncle qui ont surtout fait évoluer le domaine à ce moment-là, en reprenant des terres sur Pouilly, parce qu'il y en avait cette opportunité-là, et ont mis en bouteille à ce moment-là. Voilà.
Toi, tu as toujours imaginé revenir au domaine et devenir vigneron?
Au tout départ, pas vraiment. Je voulais reprendre la partie élevage, la partie vache, parce que ça me passionnait, que j'aimais beaucoup ça, j'étais beaucoup avec mon oncle et mon père. Et voilà. Et bon, à la fin du collège, mon père m'a dit qu'il n'y avait pas de vigneron dans la famille. enfin pas de vigneron entre guillemets, mais qui avait fait d'études de là-dedans, donc il m'a dit ça serait bien que tu y ailles. Et voilà, bah c'est parti comme ça, j'ai dit oui, dit, tant pis, et voilà. Et c'est parti à ce moment-là. C'est vrai que bon là maintenant je me pose plus cette question là, hein. j'y suis heureux là-dedans.
T'as fait quoi comme études, BTS?
J'ai fait un BEPA, un bac pro et un essai de BTS à Beaune.
Et est-ce que t'as voyagé un petit peu, ou est-ce que tu t'es formé?
J'ai fait des domaines, oui. J'étais à Bonzo, à Bourgueil, dans les Côtes-du-Rhône, en Champagne, à Sancerre et 6 mois en Nouvelle-Zélande.
Il y a des expériences en particulier qui t'ont marqué là, sur ce parcours qui est quand même assez diversifié?
Bah, toutes m'ont appris quelque chose, c'est sûr. Après, j'ai gardé celles que je voulais, voilà, je croyais le plus. Voilà.
Ces formations-là, ces différents stages que tu as fait dans des domaines, est-ce que ça a permis de te forger une idée du vin, ou en tout cas d'affiner ta vision du vin et de ce que tu voulais faire au domaine?
Oui et non, parce que en fait, je me suis retrouvé quand je suis revenu sur le domaine, à essayer de recréer ce que j'avais appris dans les différents domaines, et me rendre compte que c'était pas vraiment le type de viticulture ou de vinification plutôt que je voulais faire. Donc c'est à ce moment-là que, donc en 2016 à peu près, que je me suis dit tiens non, en fait c'est pas les vins que je veux faire, je vais essayer. Et donc j'ai commencé à lire, à regarder, à goûter des vins qui me plaisaient dans l'optique que je voulais l'emmener, et voilà, c'est parti comme ça.
Qu'est-ce qui te plaisait pas à ce moment-là?
Ce qui m'a pas plu, c'est que, c'est pas que ça me plaisait pas, mais c'est qu'on mettait souvent sur les domaines où j'étais en avant la vinification et pas la vigne. Voilà, c'était souvent technique. Je trouvais que la partie viticole, elle était pas assez poussée, pas assez mise en avant.
Qu'est-ce que tu as changé concrètement alors après?
La partie de me lancer dans le bio et la biodynamie, c'est pas forcément que ce fait-là, mais la compréhension de mes sols, d'essayer de que mes terroirs ils fonctionnent super bien, que mes vignes s'y sentent bien, et que je m'y sente bien dedans aussi.
Ok, parlons des sols là justement, c'est un sujet qui est intéressant. Il y a quand même des sols assez variés, oui. Entre Sancerre, entre Pouilly,
oui.
Il y a des marnes, il y a du calcaire, il y a de l'argilo-calcaire, il y a du silex aussi.
Des sables.
Est-ce que tu peux nous faire un petit tour d'horizon là, des types de sols sur lesquels tu travailles,
oui.
Et des spécificités, qu'est-ce que ça implique en termes de viticulture et quelle influence ça va avoir sur le vin final?
Oui. Alors, par exemple, sur mon domaine, sur Sancerre, moi, j'ai les deux terroirs. J'ai des argilo-calcaires, donc des marnes kéméridiennes, et des caillottes. Donc là, on est plutôt sur des l'oxfordien. Donc, sur Sancerre, la partie ouest, c'est plutôt des argilo-calcaires, des marnes kéméridiennes. Le centre de l'appellation, c'est des caillottes. Et la partie est, c'est plutôt des silex. Voilà. Moi, des silex sur Sancerre, j'en ai pas. Enfin, j'en ai une petite parcelle, mais qui n'est pas encore plantée. Elle va être plantée l'année prochaine, une parcelle de 20 arts. Après, sur Pouilly, j'ai des caillottes. Donc, ça, c'est des calcaires en plaquettes de Villiers. J'en ai 7 hectares là-bas. C'est ma cuvée des petites obus. Après, j'ai des marnes kéméridiennes aussi, donc terre blanche, sur la partie de Saint-Laurent-l'Abbaye, et des silex.
Et comment est-ce que la vigne, elle va réagir en fonction des différents types de sols? Je sais qu'il y a d'autres facteurs qui influencent, il y a l'exposition, il y a le climat local, mais le type de sol, c'est un élément important.
Tout à fait. Après, on se rend compte des terroirs où ils sont... plus on est dans les argiles, surtout avec les années de sécheresse, les choses comme ça, on se rend compte que dans les argiles, les marnes kéméridiennes, les vignes peinent moins, déjà. Donc ça fait des vins, souvent les années solaires, une pointe d'acidité, de fraîcheur en plus. Et sur les parties de caillottes, comme moi, sur les petites obus, c'est des terroirs très drainants. Et donc, ça m'apporte, sur les fins de maturité, ça monte vite en alcool. Donc, il faut y faire attention.
Et à Pouilly, c'est un peu la même chose?
C'est justement, là, c'est des terroirs Pouilly. De Pouilly, oui, okay. Tout à fait. Sur Sancerre, c'est un peu la même chose. Hein. De toute façon, il faut se méfier à l'heure actuelle des montées en alcool. C'est là-dessus que je travaille. C'est pour moi le plus compliqué pour un vigneron, parce que quand tu es tout seul à choisir la date de vendange, c'est pas facile. Voilà.
Justement, c'est un sujet dont on entend pas mal parler, ça, les montants d'alcool, notamment dans le Sancerrois aussi, sur des pinots noirs qui peut-être atteignent leur limite de maturité. Tu viens de dire que c'est un sujet toi qui te concerne beaucoup. Comment tu l'approches et quelles sont éventuellement les solutions, si solutions il y a, sur ça?
Les solutions, quelles solutions on a? C'est déjà le feuillage. Il faut éviter que les raisins. Dans le temps, il y a une dizaine d'années, les pinots noirs, tous les ans, on effeuillait soleil levant ou les choses comme ça. Maintenant, on essaye de garder du feuillage pour éviter les grillures, les concentrations. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Attends, j'en ai réfléchi, attends, excuse, mais qu'est-ce que je pourrais avoir? C'est pas évident. Après, c'est la date de vendange qui fait le tour. Sur des pinots noirs, je dirais qu'on peut laisser de la grappe entière pour ramener une partie mentholée, une partie un petit peu tannique qui va ramener de la fraîcheur sur les vins. Et sur les sauvignons, c'est un peu la même chose. Essayer d'éviter maintenant de rogner trop serré, remonter un peu à l'auteur de rognage pour faire de l'ombrage. Et puis une date de vendange optimale pour pas que ça monte trop en degrés.
Quand tu choisis ta date de vendange avec ces degrés, tu as la maturité des tanins et la maturité des autres composantes du vin, ou tu commences aussi à sentir un décalage entre ça, entre la grosse montée en alcool et les...
Moi, surtout sur mon terroir de Villers, des petites obus, ce qui est compliqué pour moi, c'est que je suis à la bonne date de vendange, ça veut dire que la pulpe, elle est liquéfiée. Et là, c'est là je pense que je me trompe, c'est que quand je suis à ce niveau-là, ces années-ci, je suis à pas loin de 14. Donc il faudrait que je garde un petit peu de croquant quand même, de tannique de la peau, et ça me permettrait de regagner de la fraîcheur. Et ça, c'est pas facile à faire, je trouve que c'est la partie la plus dure, parce que en 3 jours de temps, on peut avoir des 25-30 degrés, et qui remontent d'un seul coup tout en degrés, quoi.
Donc on a parlé un peu de Pouilly, un peu de Sancerre.
Ouais.
C'est deux appellations qui sont proches, à la fois en termes de déjà de cépage, parce qu'il y a le Sauvignon Blanc qui domine.
Côté.
Voilà, des deux côtés. Il y a des terroirs qui sont assez proches. Oui. Malgré tout, les vins, ils sont un petit peu différents. Et les réputations, elles sont très différentes. Mmh. Comment ça se fait que Sancerre est un peu sur le devant de la scène, et Pouilly, on a l'impression qu'il est un petit peu moins, qu'il est un petit peu dans l'ombre de Sancerre?
Pourquoi? Je dirais que parce que déjà il y a 300 familles à Sancerre et 150 sur Pouilly, que il y a eu plus, je pense, de Sancerrois qui ont fait attention à leur terroir, à leur vin, et qui ont été précurseurs aussi de se déplacer plus rapidement sur le monde entier pour promouvoir les vins. Pour moi, c'est une appellation qui va bien, il y a plein de jeunes qui lancent des choses super, donc ça va venir.
Est-ce que tu sens une différence sur la façon de vendre tes vins de Sancerre versus Pouilly fumé?
Il y a une dizaine d'années de ça, oui. Les importateurs, quand ils venaient, on vendait du Sancerre s'ils nous prenaient pas de Pouilly. Voilà. Mais c'est surtout moi cette difficulté que j'ai, parce que j'ai 5 hectares de Sancerre et 16 de Pouilly fumé. Donc c'était ça qui était difficile pour moi. À l'heure actuelle, non. Maintenant, les gens qui viennent, ils me prennent du Pouilly fumé sans Sancerre, il n'y a pas de souci.
Comment est-ce que tu décrirais les vins? Enfin, en tout cas, la différence qu'il y a dans les vins entre Sancerre et Pouilly?
Pour moi, le Sancerre, c'est plus minéral, un peu plus sec. Et le Pouilly, c'est un petit peu plus généreux, un peu plus de volume de bouche. Enfin, pour mon domaine. Hein.
Ouais. Et qu'est-ce qui marque la différence entre les deux?
J'ai une proportion d'argile un petit peu plus importante sur Pouilly. Donc, c'est ça qui fait la différence pour moi.
Et ça, c'est un atout, là, maintenant, tu dis, pour les montées en alcool, là, ou pour les années chaudes, là, d'avoir une proportion d'argile plus importante?
Ah bah oui, c'est des feuillets d'argile, donc ça maintient l'humidité beaucoup plus que des calcaires ou c'est des sols très drainants.
Alors, juste avant, en micro, là, on parlait un petit peu du podcast que tu écoutes et des vignerons, en tout cas des vignerons qui t'intéressent. Et tu nous as parlé de Pierre Auvernois, on a senti qu'il y avait une sensibilité commune. Tu nous as aussi parlé un petit peu en préambule tout à l'heure là, du bio et de la biodynamie.
Oui.
qu'est-ce qui te séduit ou qu'est-ce qui te convainc dans cette démarche du bio, de la biodynamie, et comment est-ce que tu en es arrivé là?
Bah moi, je le conçois... Je trouve que quand on arrive à aller jusqu'à la biodynamie, c'est aussi un... C'est pas forcément que la biodynamie, mais c'est cette sensibilité qu'on a en plus pour nos vignes et nos vins. C'est qu'on devient encore un petit peu plus pointu, on essaye encore d'aller rechercher quelque chose pour qu'elle se sente bien et qu'elle nous fasse les meilleurs raisins possibles. C'est ça qui me passionne, en fait. Et moi, par la même occasion, me ressentir encore bien dans mes vignes.
Qui est-ce qui t'a amené sur ce chemin-là? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont influencé et qui t'ont convaincu?
Oui, qui m'ont influencé, je ne sais pas, mais en tout cas... des personnes que j'ai rencontrées, oui, Vincent Dovissa à Chablis, ma femme est de Chablis, elle est vigneronne, ses parents sont vignerons à Chablis, donc je l'ai rencontré pas mal de fois, et je trouvais que sa façon de parler, ses vins, ces choses-là, sa façon de faire, ça me touchait. Alors je sais pas pourquoi, mais j'ai tout le temps l'impression, en fait, que quand tout le monde va dans un sens... Bah moi, je vais dans l'autre sens. Je ne sais pas comment dire, mais donc, du coup, lui, sur le Chablisien, par exemple, quand tout le monde allait dans une viticulture conventionnelle, on va dire, entre guillemets, et bah lui, non. Il allait en arrière sur des choses, des levures indigènes, sur de la biodynamie, des choses comme ça. Je suis un peu dans cette façon de faire.
Est-ce que tu as vu des changements concrets dans tes vignes et dans les vins quand tu es passé au bio et puis à la biodynamie?
Oui. Le plus pour moi. Après, les vins, c'est compliqué parce que l'élevage, les vinifications, ils peuvent rentrer en compte et donc changer un peu l'aspect. Par contre, au niveau des vignes, oui. C'est sûr que nos sols, ils se travaillent beaucoup mieux. On a une flore qui est superbe maintenant. Alors qu'avant, je me souviens qu'on avait beaucoup de mauvaises... Il n'y a pas de mauvaises herbes, mais des...
Et que des herbes au mauvais endroit.
Voilà, c'est plutôt ça. Et que maintenant, non, c'est beaucoup plus riche. Et puis moi, je parle beaucoup de ressenti. Je fais venir un géobiologue tous les ans qui me remet mes vignes à niveau, qui me demande si je m'y sens bien dans certaines parcelles. Et je me souviens qu'il y a 4-5 ans, j'avais 2-3 parcelles où à chaque fois j'y allais... C'est pas que j'avais pas envie de pas bien les conduire, mais c'est que je me dis tiens, celle-là, c'est moins grave. Mais que maintenant, non. Toutes les parcelles où on est passé avec lui, j'ai tout envie de les travailler extrêmement bien. J'ai pas de parcelles que je mets de côté. Et voilà.
Vous êtes plusieurs au domaine, c'est une histoire familiale. Comment ça a été perçu, ce changement de philosophie, ou comment t'as accompagné les gens de ta famille dans cette nouvelle dimension? Est-ce qu'ils étaient convaincus aussi? Est-ce que tu as dû les convaincre?
Oui, j'ai dû les convaincre, exactement. Non, ça, le tout départ, ça ne s'est pas très bien passé. Mais là, maintenant, ça y est, c'est parti. C'est surtout avec mon père, mon cousin, il me suit, il n'y a pas de souci. Lui, il s'occupe plutôt de la partie céréalière, en fait. On a une ferme céréalière. On échange tout le temps. Il est là pour la taille et il est là aussi pour les vendanges. Voilà, et c'était plutôt mon père. Mon père, lui, il ne comprenait pas trop tout ça. Donc non, on a été jusqu'à quasiment la rupture, parce que fallait sûrement ça. Aussi qu'il ait cette confiance de se dire, eh ben, tiens, si il veut aller vraiment au bout des choses, il y croit, et voilà, il va réussir, et voilà. Mais on a été loin, oui, dans les paroles, dans les choses comme ça, oui. Mais maintenant, ça y est, il est parti. Je lui fais épandre des 500, de l'ortie, des choses comme ça. Il est à fond.
Qu'est-ce qui l'a convaincu? C'est les vins? C'est des discussions?
Et puis, je pense que c'est une éducation au niveau du toucher, de la dégustation. C'est tout un changement. On bouscule tout. Ça faisait 40 ans qu'il faisait cette viticulture-là. Je comprends tout à fait que c'était compliqué de tout changer. Après, je me voyais pas faire cette viticulture pendant 40 ans. Et maintenant, si, il va très bien. C'est top.
Et la même question se pose aussi pour ceux qui boivent tes vins. Est-ce que ça a dû changer, ça a dû influer sur le style des vins?
Oui. Ce qui est bizarre, pas tant que ça. C'est pareil, ça a été l'éducation. Après, j'y ai été hyper progressivement. C'est-à-dire que, par exemple, juste au niveau des levures indigènes, le tout départ, c'est les 16, 2016. je faisais deux cuves de levure indigène et quatre en levure neutre sélectionnée. Et puis 17, voilà, un petit peu plus de levure indigène, et puis ainsi de suite, jusqu'à arriver à 100%. Et les gens n'ont pas forcément, voilà, sont pas dit, tiens, oui, il y a eu un changement, mais j'apprécie pas. Voilà, j'essaye quand même de travailler quand même, entre guillemets, proprement. Donc voilà, non, ça s'est très bien passé. Et ce qui est marrant, c'est que cette ancienne génération, ce que je m'amuse à faire, une tonne de 600 litres en nature, sur des silex, sur Pouilly, aventure. Et je vois que les anciens, même les anciens clients, les plus anciens, et ben maintenant, ils prennent une ou deux bouteilles de cette cuvée-là. Et à chaque fois, ils reviennent, ils en reprennent. Donc ça, je trouve ça bien, c'est l'éducation du palais. Certes, c'est pas l'optique du vin. Voilà, ça, c'est un Pouilly fumé. Voilà, on sait que les vins nature, ça... Pour moi, ça gomme un petit peu l'aspect des terroirs, des fois, et des cépages. Mais il y a ce vin plein, vibrant, qui me plaît. Voilà.
Concrètement, tu fais quoi en cave, là ? Là, tu nous as parlé des changements sur les levures. Qu'est-ce que tu as changé d'autre dans ton processus de vinification et d'élevage ?
Bon, déjà, quand je suis revenu, on avait quatre vins. Un Pouilly fumé domaine, un Sancerre blanc domaine, un Sancerre rouge domaine et un Sancerre rosé domaine. Maintenant, on en a 12. J'ai fait des sélections de parcelles, de terroirs, dans des différents contenants. Après, au niveau de la vinif, je fais le strict minimum. C'est-à-dire rentrer des raisins sains à bonne maturité. Je fais des pieds de cuve pour faire enlevure indigène. Enfin, des bourbages statiques pendant 24 heures, 48 heures, suivant comment la vitesse que ça se dépose. Et après, je les laisse fermenter.
En cuvinox ?
En cuvinox.
Contrôlé ?
Oui, voilà, tout à fait.
Tu vinifies à quelle température ? À peu près ?
Bah, avant, j'étais hyper protocolaire. Maintenant, avec tous les problèmes de fermentation, beaucoup moins. J'essaye que ça fermente correctement et en pas trop longtemps. Parce que là, je dois dire que cette année 2022, ça a été une galère monumentale. Bon, j'ai encore des choses qui ne sont pas finies. Je ne m'affole plus avec ça. Bah, je m'affole plus avec ça parce que c'est des micro-cuvées, donc je sais que j'ai le temps d'élevage derrière, des choses comme ça, mais quand c'est sur les cuvées domaines, c'est plus compliqué pour moi. Qu'est-ce que je fais en cuvinox ? Oui, en fût, en tonne de 600 litres, en jarre. Voilà.
Et pour les élevages ?
C'est ça, les élevages, ouais. Ils sont là. Après, okay. Je les laisse, moi je ne cherche pas, après je les laisse dedans. Ils font un an, par exemple une amphore, elle fait un an dedans, un an en cuve, et après elle est mise en bouteille.
D'accord.
C'est souvent comme ça sur chaque contenant différent.
Et t'élèves sur lit fine ?
Tout à fait. Ouais. Après, suivant les millésimes, pas forcément. Par exemple, 2022, c'est encore assez riche. Ça fait encore pas loin de 14. Donc là, j'ai fait un pré-soutirage. Enfin, voilà, j'ai soutiré encore un coup pour essayer de vraiment garder le minimum, que ça m'enrichisse encore. Pas trop les vins.
Les problèmes de fermentation que tu viens d'évoquer là, est-ce que tu as identifié l'origine de ces problèmes ?
Alors comment dire ? Alors moi déjà en plus sur mon domaine je fais 100% les malots sur les vins. Généralement ils se déclenchent plutôt en fin de fermentation. Donc vraiment quand il reste plus beaucoup de sucre, les malots se font et après les sucres se terminent gentiment. Cette année ça s'est fait en plein milieu avec des 40 grammes de sucre, 50 grammes et ça a tout arrêté.
En plus c'est risqué quand il y a la malo en même temps que la fermentation alcoolique, parfois.
Non,
il peut y avoir un développement
de
volatiles.
Tout à fait. Ce que ça fait un petit peu, mais pas tant que ça, donc je ne le perçois pas, je ne l'ai pas perçu en bouche ni au nez. Mais bon, ça a déclenché, donc là j'ai refait un pied de cuve et j'ai ensemencé, c'est redémarré. Donc voilà, ça, c'est quasiment tout sec à part mes cuvées qui vont redémarrer au printemps, celle-ci.
Quelle solution t'aurais pour que les fermentations elles soient plus vigoureuses ? S'il y en a.
Parce qu'il y a, c'est que si je veux rester dans ce protocole de me dire je ne veux pas mettre d'autres intrants dans mes vins, c'est difficile. Après, je pense qu'il manque de l'azote, sérieusement. Donc, à regarder si je pourrais trouver ou des années vraiment compliquées, essayer d'en mettre un peu quand même.
On parle du sol, là. L'azote dans le sol, c'est ça ?
Non, sur les vins.
Enfin, ok.
Ouais, pour que les levures, elles se...
Et l'azote que tu as dans le vin, il viendrait d'où ?
Bah voilà, bah tout à fait. Essayer de retravailler aussi ces parcelles-là pour les enrichir en azote. Tout
d'accord.
À fait.
Et ça pourrait se faire comment ? Avec des semis, par exemple, ou ce genre de choses ?
Les semis, je ne sais pas. Je pense qu'il faut éviter d'avoir... je sais que sur des parcelles enherbées depuis trop longtemps, moi, j'en ai pas. Mais on a des carences en azote beaucoup plus importantes que sur les autres. Après, c'est sûrement des composts, des clans. Enfin, il faut essayer que le sol il soit encore plus vivant pour essayer d'avoir des taux d'azote le plus important possible pour moi.
Et ce taux d'azote, est-ce que tu peux le... Enfin, la carence en azote, oui, tu peux la constater directement dans tes vignes, tu as des signes, ou alors est-ce que tu fais ça par analyse?
C'est des analyses, okay, tout à fait, de raisin.
Et tu as parlé de malo aussi?
Oui.
Donc toi, tu les fais systématiquement?
Oui, maintenant, oui.
Est-ce que tu vas continuer dans cette voie-là, ou est-ce que bloquer les malos, ça pourrait être une manière de conserver de l'acidité et de la fraîcheur dans des vins qui montent un petit peu en degré?
Ça, c'est toujours compliqué parce que moi, j'aime ces vins-là aussi un petit peu enrobants. Et en fait, pour moi, c'est plutôt l'élevage long qui va ramener cette acidité, cette fraîcheur, plutôt que de bloquer les malos. Si on se bloque sur les malos, moi, ça me fait travailler des vins. Donc, bloquer des malos, il n'y a qu'une solution, c'est de mettre du soufre à l'heure actuelle. Donc ça, je me l'interdis pour le moment. J'en mets du soufre, mais avant mise en bouteille. Mais jusqu'à la mise en bouteille, j'en mets pas. Et je trouve qu'on a peu de malic ces années-là, de toute façon. Donc, c'est peu perceptible. Après, c'est des élevages qui demandent plus de temps pour les vins qui se réouvrent derrière et qui ramènent cette tension.
Tu viens de faire un lien entre l'élevage et l'acidité ou la fraîcheur potentielle des vins. Mmh. C'est quoi ce lien, justement?
Bah pour moi, il faut du temps pour digérer l'alcool. Et souvent dans les contenants, dans le bois, dans les 600 litres par exemple, et ben c'est 2-3 ans après où revient cette fraîcheur. Faut être patient et pas les brusquer. Si on les brusque sur des millésimes solaires, on va donner de l'astringence, de la séchance pour moi, et ce côté très, enfin, alcooleux. Que si on les laisse patienter tranquillement, on aura ce côté facile, plein et plus frais sur les vins.
Et tu arrives à avoir cette patience, ou tu as la possibilité aussi économique, parce que c'est un sujet aussi, d'avoir cette patience ou...
Sur les cuvées domaines, non, j'ai pas cette patience, parce que 2016 et 2017, j'ai quasiment gelé à 100% sur Pouilly, pas sur Sancerre, donc j'ai pas économiquement, voilà, je suis obligé de lancer la machine assez tôt. Mon objectif est de rattraper ça, d'avoir un an pour les élever correctement. Et sur mes cuvées, je me laisse libre choix en fonction des millésimes de gérer les élevages et de déclencher les ventes.
Donc ça, c'est la dégustation qui te fait dire que l'élevage est arrivé à son terme.
Oui, tout à fait.
Est-ce que tu aimerais aller plus loin dans les élevages? Justement, Romain a parlé de Pierre Auvernois tout à l'heure et Manuel Houillon qui font des élevages sur certaines cuvées relativement très longs.
Ouais.
Est-ce que c'est une idée que tu aurais envie d'essayer un jour sur une cuvée spécifique, d'aller vraiment... très très loin dans les élevages.
Ça c'est sûr. Après, il me faut des contenants qui les supportent. Là maintenant, déjà, sur les Sauvignons, je dis pas que c'est rare, mais je fais des 3 ans d'élevage. Donc, ce qui est déjà pas mal sur une tonne. Donc, faut pas non plus. C'est pas la grosse proportion du domaine. Mais là, j'ai fait des devis là, pour des cuves tronconiques. Voilà, c'est un constructeur de la région, Guillaume Lacroix. Et ça serait pour travailler sur des choses comme ça, oui. Des élevages beaucoup plus longs.
Quand tu regardes le chemin que tu as parcouru là, depuis le passage en bio et la biodynamie, est-ce que tu es content de ce que tu as fait? Est-ce que tu es content des vins que tu fais aujourd'hui, qui sortent aujourd'hui?
Je pense que je manque de précision encore parce que je fais 12 cuvées et qu'il me faudrait du monde pour bien surveiller les fermentations, préparer correctement les pieds de cuve. C'est pas que je le fais mal, mais ce qu'il y a, c'est que c'est quand même du boulot et c'est compliqué. Je suis pas sûr qu'arriver à la retraite...
T'as encore un peu de temps, non? Ouais,
non, mais que je sois arrivé à la retraite, je me dise, tiens, je suis content du chemin que je prends. Après, dire que je suis arrivé à l'optimum de ce que je peux faire, non, pas du tout.
Alors, qu'est-ce qui te reste à faire là? Le chemin que tu prends, c'est quoi là?
Bon, c'est énorme. Enfin, y a une quantité de travail gigantesque dans la viticulture. C'est vrai que là, je regarde pour replanter des arbres en bordure de parcelles, pour ramener de la biodiversité, faire un peu d'ombrage. Je regarde les sélections massales, 100% surtout l'échanger, parce que jusqu'à présent, jusqu'à 3 ans, on était encore en clonal. Maintenant, je remets que du massal. Sauvignon, parce qu'on a la chance d'avoir une pépinière qui nous le permet, nous, ici.
Tu fais ta sélection massal toi-même?
Non, c'est la sélection Sicavac, il s'appelle. Donc, c'est une sélection qui a été faite dans le Sancerrois, que je prends. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? 100% manuel, parce que je vendange encore une partie à la machine, une grosse partie à la machine même. Donc ça, je vais y venir 100%. Puis après, sur des élevages, voilà, beaucoup plus de bois. Parce qu'à l'époque, quand j'ai monté ma cuverie, ben voilà, j'avais pas cette même image du vin. Et maintenant, il faut que j'achète du bois, des contenants qui me permettent aussi de faire évoluer les vins différemment. Voilà, tout un système. Vous voyez, c'est tout un. Il y a encore du boulot, mais il y a pas de souci, ça sert.
Tu vois une vraie différence entre la vendange machine et la vendange à la main ?
Oui, c'est de la précision. De la précision. Déjà, je trouve que. Pour le pied de vigne, se faire vibrer comme ça, ça me fait des mal au cœur. Le raisin, voilà, il est pas. Voilà, du moment qu'il y a un petit peu de jus qui sort, pour moi, il y a une perte aromatique. Il y a une précision en plus aussi sur la main, c'est que l'acidité, elle est plus nette, elle est plus précise. Voilà. Donc, et puis sur l'épinot, j'en parle même pas. Ouais.
Ça viendrait de quoi ça ? En fait, peut-être.
Ah, c'est la micro-oxydation, peut-être, ouais. Des choses comme ça.
T'as du jus qui se libère, ouais, un peu d'oxydation qui se fait pendant le transport.
Ouais.
Ok.
Ça, c'est purement économique. Hein.
Aujourd'hui, c'est pour ça que tu continues à faire à la machine ?
Exactement. C'est que, voilà, les 16 et les 17, moi, j'ai vraiment, vraiment peiné. Hein. Le domaine, si je faisais une troisième année comme ça, il n'y avait plus de boutique, parce que c'est l'année où on a rénové la cuverie, on a acheté la cuverie et tout ça, et ça m'a coûté énormément cher. Donc là maintenant, c'est ma dernière année où je paye vraiment ces deux années-là, et après bah, je vais me lancer à en faire plus en plus.
Dans une de tes phrases là, tu as abordé juste un petit sujet, je pense, qui est les problèmes de personnel, j'ai l'impression. Tu as dit qu'il y a beaucoup de travail, mais qu'il y avait, tu avais peut-être pas assez de bras au domaine pour faire tout ce que tu voudrais faire aujourd'hui. Est-ce que c'est une question économique ? Ou est-ce que c'est aussi une question de disponibilité de main-d'œuvre et de compétences de la main-d'œuvre ? Enfin, des personnes qui pourraient venir travailler.
Là, c'est un tout. Hein. C'est un tout. On peine à trouver. C'est vrai que je veux dire, dans toutes les régions, dans tous les secteurs, que ce soit dans tous les secteurs de France, je pense qu'on peine à trouver de la main-d'œuvre. Ici, je cherche. Je cherche une personne à plein temps et on ne trouve pas. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Au moins pour me libérer du temps, être plus précis en vinif, des choses comme ça. Bah, pas forcément le faire le soir en panique. Ça serait bien. Mais après, c'est aussi un apprentissage. Parce qu'il faut savoir, ce qui est compliqué, c'est que pour moi, je n'ai pas encore fini de peaufiner toutes les choses que j'ai à faire en vigne. Et donc, du coup, je peine à me dire, tiens, je vais mettre quelqu'un qui va me remplacer alors que je n'ai pas encore fini mon travail. Il faut que je finisse ma partie viticole, par exemple. Même si, on ne pourra pas vraiment la finir, mais vraiment aller où j'ai envie et mettre quelqu'un qui dire, voilà, c'est comme ça que je veux avancer, ainsi de suite. C'est déléguer, ce n'est pas forcément simple non plus.
Et comment ça se fait que tu as du mal à trouver ?
Parce que je ne sais pas, c'est comme ça, ça fait peut-être moins rêver, je ne sais pas, ce n'est pas simple. Hein. On a une école de viticulture à Cosne-sur-Loire, à côté. Je crois qu'ils sont 4 ou 5. Donc deux qui sont préposés à revenir sur leur domaine. Donc ça laisse 3 personnes sur un secteur comme le nôtre, c'est rien.
Ouais, ça paraît peu, oui.
Personnes qu'on embauche, c'est pas forcément qu'ils sont mal, mais en fait maintenant, ils viennent faire 4-5 mois, c'est des saisonniers, ils ont plus envie de rester sur un domaine pour plusieurs années ou même pour leur carrière.
C'est des métiers qui manquent d'attractivité aujourd'hui ?
Je sais pas, après tous les métiers de main, pour moi... On en a fait quelque chose avec une image un peu une mauvaise image. Donc, tout corps de métier retourne au collège et puis présente leur métier, fasse rêver les enfants, et leur dise de ce qu'on fait, et voilà, pour leur permettre de. Bah, oui, non, on est bien à faire de la vie, on est bien à faire boucher, on est bien à faire boulanger, on est bien. Voilà, je trouve que ça a été dévalué, c'est surtout ça.
J'imagine que tu dois pas être tout seul quand même au domaine pour t'occuper de 21 hectares. Vous êtes combien ?
Donc j'ai mon père, mon cousin, donc avec qui je suis associé, Floriane, qui est la femme de Gaël, qui est revenue l'an dernier pour aider ma mère dans la partie administrative. Et après j'ai mes deux ouvriers, Johan et Brahim, qui sont aux vignes, la partie vignes.
Et eux, tu arrives à justement leur dire ou leur demander de s'impliquer sur du long terme ? Ils sont là pour quelques années ?
Ah bah, ils sont top, j'ai de la chance. Ah, ils sont super. Je n'ai pas à me plaindre. C'est vrai qu'on a deux super gars. Et eux, ils sont partis. Bah, Johan est arrivé en même temps que moi. Donc, ça doit faire. Je ne sais même plus combien de temps ça fait, lui. Mais non, lui, j'espère qu'il finira avec Brahim sa carrière ici. Bah, je fais tout pour le faire. Après, voilà. on a un domaine assez libre, alors chacun, voilà, on s'entend bien, on parle bien, c'est, voilà, c'est agréable de travailler qu'on est tous les trois, c'est top.
Ils doivent te remonter aussi des informations assez importantes, puisqu'ils sont toute l'année au sein des vignes. Ça doit nourrir une bonne partie de ta réflexion aussi, ce qui te remonte, j'imagine.
Et puis j'écoute. Je pense que du moment où on n'écoute plus ce qui se passe avec ces gars, c'est eux qui y sont en permanence, c'est là où on se trompe. Voilà. Et puis quand je décide de faire un travail, je pose la question aux deux autres, comment vous voyez les choses, si on les fait comme ça, si y en a un qui a une meilleure idée, je suis pas contre. Hein. Pas de souci.
Quand on est rentré chez toi, là, on a vu quelques bouteilles que tu avais déjà dégustées en haut du frigo, là. Enfin, des bouteilles d'autres régions avec des jolis noms, quand même.
Ouais.
C'est quoi les vins qui te font vibrer ?
Oh, j'en ai un paquet. Hein. Moi, les dégustations qui me marquent le plus, souvent, c'est quand je me déplace sur un domaine ou quand le vigneron ou la vigneronne est en face. Parce que je trouve qu'il y a un truc qui se passe en plus, et puis ça me fait rappeler plus facilement le vin que j'ai dégusté. J'en ai un paquet. Hein. Michel Crisard, voilà, j'en fais partie. Ça fait partie des grands moments parce qu'ils ont des grandes cultures, ils ont œuvré pour la viticulture française, et puis voilà, ça m'a beaucoup plu. Après, on a été rencontrés. Bon, j'en fais beaucoup. Hein. Des domaines qui, voilà, Jean-Louis Chave, on a été le rencontrer. Et donc, on a fait une super dégustation, bien sûr.
Et on aimerait bien y aller aussi, ouais. Chez Jean-Louis Chave.
Et il m'a demandé, j'ai eu la chance, il m'a demandé à moi quelle année j'étais. Bon, j'ai dit 85 et il m'a ramené un Hermitage 85 blanc. Et donc ça fait partie, oui, des vins qui m'ont marqué parce que déjà, j'avais pas cette connaissance de cépage et cette fraîcheur en fait que ça avait gardé. Je m'attendais à quelque chose de quand même d'opulent, mais pas avec tant de fraîcheur, et donc ça m'a marqué énormément. Dovisa, Vincent, ça en fait partie. Après, il n'y a pas que tous les grands noms. Là, ce que j'aime beaucoup, c'est les vins du Jura en ce moment, la Savoie, toute la Loire. Ouais, non, j'en aime beaucoup des vins, l'Alsace, la Champagne, enfin bon, bref, j'adore ça, quoi.
Et au début de l'interview, tu nous as plutôt dit que tu étais intéressé par l'élevage et moins par le vin. Est-ce que tu te souviens du moment où tu as attrapé le virus ? Où il y a une ou quelques dégustations qui t'ont un peu fait basculer ?
Ce qui m'a fait basculer, je dirais, c'est quand j'ai compris un peu tout l'attractivité du métier de vigneron. C'est-à-dire d'avoir entre les mains son terroir. Après le pied de vigne, après les raisins, le vin, et puis après tout ce qui s'ensuit, la rencontre qu'on peut faire avec tous les gens du monde entier, tout ce que ça peut nous apporter. C'est un métier qui est génial. C'est ça qui m'a fait. Mais tant que j'ai pas eu vraiment cette image globale, et je pense que c'est aussi ça cette difficulté, c'est qu'à l'heure actuelle, on travaille. Je veux dire, les gens qui travaillent, ils travaillent pas pour une globalité. Ils se fixent peut-être trop sur tiens, je suis vigneron, je fais que de la vigne. Ou je suis vigneron, je fais que du vin, ou ainsi de suite. Il faut voir tout ton ensemble. Et là, c'est immense, c'est inarrêtable. On a plein de choses à faire.
On parle pas mal de plaisir, d'émotions et tout ce que le vin t'apporte. Est-ce que tu arrives à avoir des émotions avec tes propres vins ?
Ah, ça, c'est assez difficile pour moi. C'est vrai. Je l'ai, mais pas autant. Disons qu'il faut vraiment que des fois je me pose, et maintenant je le fais de plus en plus, c'est ramener mes vins à la maison et de les goûter à la maison pour me rendre compte. Parce que je le fais souvent sur cuve, et du coup je goûte, c'est plutôt là le mode professionnel, voilà, est-ce que des viandes où j'en suis, et ainsi de suite. Mais je prends pas forcément tout le temps de les associer avec des plats ou des choses comme ça. Donc je le fais de plus en plus à la maison. Oui, ça vient petit à petit. Mais souvent, je suis critique, alors bon, c'est difficile.
Faudrait peut-être qu'il y ait des gens qui te les servent à l'aveugle, non ?
Oui. C'est aussi l'angoisse, ça, de faire ça. Nous, on a un petit club de dégustation. On est 10 vignerons, on s'en sert. Et ça, on se l'interdit, parce que ça peut finir en bagarre. Voilà. Non, faut pas.
Dernière question ? Ouais. Alors, on passe à la dernière question traditionnelle du podcast. Oui. Est-ce que tu es heureux dans ce que tu fais ?
Oh oui. Oui. Alors là, pour rien au monde, je changerais mon métier, c'est sûr. Non, c'est top. On est dans une région qui est belle. Le métier, il est top. J'ai rien à dire. Franchement, c'est une chance monumentale d'avoir ça, pour moi.
Merci, Marius.
Bah, de rien, merci à vous.
Merci, Marius, pour ce moment intime et joyeux. Et surtout, merci de nous aider, ainsi que les auditeurs et les auditrices, à mieux appréhender les terroirs de Sancerre et Pouilly. Et bravo pour les vins touchants que vous produisez au domaine. Chers auditeurs, chères auditrices, encore un domaine à ajouter à la liste des vins d'émotion. Une liste déjà longue, j'en suis certain, et qui sonne comme une formidable promesse. Je suis Romain Becker et vous écoutez Le Bon Grain de l'Ivresse. Réalisation Romain Becker, Antoine Sica et Florian Nunez. Merci à Emmanuel Nappet pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Léna Mazilu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon !